4 juin 2021. C'est une enquête du cinéma. On accueille Aminatou Echa. On est au Polygone Étoilé. Où il y a la table de montage 16 mm sur laquelle Aminatou travaille et nous parlera à la fin de l'émission de son dernier travail en cours et on regardera quelques images sur cette table de montage. On est avec David Yon, avec Darjeeling et on va essayer de se promener un peu autour du cinéma et de questions de cinéma qu'on va un peu poser à Aminatou.
Tu peux nous parler de peut-être ton premier film, d'où c'est venu, et nous parler de ce film-là, comment ton désir de cinéma, comment ça a commencé.
Le tout premier film, s'appelait Jean de Potosi. Et à l'époque, je venais de finir un travail de maîtrise d'ethnomusicologie en Bolivie, à Potosi, et je m'étais dit que j'allais en profiter, comme je connaissais vraiment très bien le terrain et les gens et ce qui s'était roulé là-bas, la fête, en l'occurrence la fête en l'honneur du saint patron de la ville, et que j'allais faire un film à partir de ça et filmer. Alors à l'époque, je filmais déjà en Super 8, mais aussi en vidéo que j'allais. Enfin, essayer, c'était le premier, peut-être la première expérimentation. J'avais quand même malgré tout fait les dossiers pour avoir des subventions, de l'argent, comme il faut. Après, je crois, pas mal de mois, comme j'avais toujours rien, je me suis dit que j'allais juste y aller et faire ce que j'avais dans la tête et qui était peut-être un peu plus expérimental et pas vraiment classique. Et je me suis retrouvée là-bas à filmer et à monter seule. Mais le désir de cinéma, je pense qu'il était déjà là, de faire des images. Je pense qu'au départ, c'était peut-être plus une envie de faire rencontrer le son et l'image, en fait. Et un univers sonore et un univers recomposé, filmé, en fait, que moi je recrée avec des images pas forcément réalistes en Super 8, puisque à ce moment-là j'avais déjà commencé à refilmer des images Super 8 sur mon mur avec une caméra vidéo. À l'époque c'était du HI8, je crois. Et donc ça dénaturait déjà l'image, et donc il y avait déjà cette recherche-là. Et le film, il s'est fait petit à petit comme ça. Et après, après j'ai continué.
C'était en quelle année ?
C'était en 2003, je pense. 2003-2004, quelque chose comme ça. Et en 2003-2004, le film fait une quarantaine de minutes. Et j'avais déjà fait quelques petits courts-métrages, des essais quoi, en pellicule, en Super 8, et que j'avais pas montré du tout. Je crois que Jean de Potosi, c'est le premier que j'ai montré. Et après quoi, en 2006, j'ai enchaîné sur la période en Asie centrale, cette longue période, j'y suis allée une douzaine d'années. Et sur une douzaine d'années, j'ai commencé par filmer, par essayer de voir ce que je pouvais faire avec cette matière-là. Parce qu'à chaque fois que je pars quelque part, j'enregistre des sons et je filme de manière indépendante. Et ensuite, à la maison, j'essaye de faire se rencontrer l'image et le son et de voir ce que ça donne. Et à partir de là, j'ai commencé à construire des envies de film,
C'est marrant parce que là c'est près de 20 ans finalement, c'est une aventure qui dure depuis près de 20 ans si on fait le compte assez facilement, et du coup j'ai l'impression, je découvre à peine, et je découvre ton travail, enfin en tout cas ce qui t'anime et ce que tu fabriques, et d'en avoir aux autres. Et j'ai l'impression que, enfin je soupçonne que ce dispositif, effectivement, de partir seul avec et du son et du Super 8 ou de la caméra DV, enfin des choses très légères, de monter seul, ça t'a pas quitté. Et voilà, en fait, c'était vraiment la question de... En fait, je trouve qu'il y a une forme d'exigence dans la forme, une forme de radicalité dans ce que tu proposes en termes cinématographiques, et qu'en même temps, ce qui a l'air de t'animer, c'est sur ce sur quoi je voulais t'interroger, c'est que j'ai l'impression que tu es très animée aussi par la rencontre, en fait, la rencontre humaine. Voilà. Si tu peux parler de ça, de comment tu rencontres, avant de se faire rencontrer l'image et le son, comment tu rencontres l'autre ?
Oui, bah, c'est vrai que j'ai filmé seule. Après, seule pour plein de raisons. J'ai toujours aimé rencontrer l'autre, mais avec quelque chose que j'apporte, en fait. Et la caméra Super 8, quand on filme en Super 8, on a une autre présence, en fait, à l'autre et dans le lieu où on est. Parce qu'en fait on a très peu de pellicules, ou en tout cas moi quand j'ai commencé j'avais pas d'argent pour acheter des bobines, et donc j'en avais très très peu, et avec cette caméra là en Bolivie au départ et puis ensuite en Asie centrale, on me prenait pour un drôle de phénomène, enfin je suis pas vraiment artiste, on sait pas forcément très bien ce que c'est au fin fond des Andes, de la montagne et tout ça, et dans le sens où l'appareil que j'ai, c'est vieux, c'est un objet qui a l'air d'être très ancien, qui n'existe plus vraiment, on ne sait pas trop ce que c'est pas un appareil photo en même temps, on ne peut pas tout de suite voir les images comme on a l'habitude aujourd'hui, et en même temps je suis pas ni journaliste ni réalisatrice, enfin en tout cas pas pour ces gens-là pour qui faire des films c'est faire des choses qui sont montrées à la télé. Et donc, du coup, ça c'est ça qui rend possible la rencontre, parce qu'il y a quelque chose de curieux et d'intrigant. Et je ne suis pas une touriste lambda. Et puis, de toute façon, en général, j'aime bien revenir et revenir encore dans les mêmes lieux, et donc assez longtemps. Donc, finalement, en Bolivie, je connais très peu de choses du pays, je suis toujours allée à Potosi. Et c'est pareil pour l'Asie centrale, je suis toujours allée dans les mêmes régions pendant ces 12 années. Et donc, c'est voilà, avec ce temps-là qui se déroule, que je reviens, je peux, je sais pas, sur la durée, être perçue. Je sais pas, enfin, en tout cas, la façon dont je suis perçue fait que j'arrive à rentrer en relation vraiment, en fait, dans un échange, en fait, de discuter, peut-être pas d'égal à égal, il n'y a jamais ça, mais de pouvoir vraiment être sur un autre terrain que juste, moi, poser des questions et qu'on me réponde sur la nature de la culture ou des traditions, des choses comme ça, ça se place tout de suite ailleurs. Et c'est ça qui me plaît, en fait, et c'est ça que je cherche aussi. Et dans les films... c'est ensuite avec cette matière-là que je peux travailler. Les gens acceptent d'être enregistrés ou dans les lieux ou d'être filmés. Et oui, il y a un truc comme ça qui est assez beau et qui me fait continuer aussi à aller dans ces lieux-là. Après, travailler seul, c'est... je sais pas, je pense qu'au départ, j'avais pas l'argent pour de toute façon partir faire un film avec une équipe et que même si ça me va bien et que ça me ressemble, c'était pas forcément un choix au départ, et qu'après on le transforme et on en fait aussi quelque chose qui devient pratique. Et ouais, voilà. Après, quand on est seul aussi, comme ça, loin, les gens, peut-être ont plus confiance, enfin en tout cas, il y a une autre... ouais. Ouais.
Et comment tu choisis les lieux où tu veux où tu veux
rester,
ouais.
C'est je les choisis pas, je crois que c'est les lieux qui et les rencontres qui me choisissent ou qui font que ça je me laisse guider par ce qui se passe, par ce que je ressens, je pense, dans un lieu ou avec les gens. Et si j'ai le désir de filmer, enfin, ou de rester, que je ressens ça, en fait, alors je reste dans cet endroit-là. Et je pense que c'est vraiment quelque chose comme ça. Au départ, je suis allée au Kyrgyzstan en 2006. Je voulais changer de territoire. Ça faisait pas mal d'années que j'étais en Bolivie à travailler. Et je voulais aller dans un endroit que je connaissais absolument pas. Et en fait, j'ai juste rencontré à une fête une amie qui m'a parlé du Kazakhstan avec les yeux qui pétillaient et avec un sourire et une passion, enfin quelque chose de très fort. Et je connaissais absolument rien à l'Asie centrale, ni à l'histoire. J'avais jamais vu d'image, jamais vu de film, enfin vraiment rien du tout. Mais je me suis dit, si elle a pu être touchée comme ça par cet endroit-là, peut-être que ça va m'arriver. Et c'est ça que je cherchais, en fait. Et peut-être que j'aurais envie d'y rester et d'y revenir pour faire quelque chose. Et donc, je suis partie là-bas. Enfin, je ne suis pas partie au Kazakhstan parce que j'ai pas pu, pour des histoires administratives, de visa, qui étaient trop longs à avoir. Je voulais partir tout de suite. Et donc, je suis allée au Kyrgyzstan. Et au Kyrgyzstan, j'ai rencontré des gens, enfin, des Kyrgyz. Je me suis retrouvée à tout de suite pouvoir monter un atelier de cinéma avec la personne qui m'hébergeait, que je connaissais pas, mais qui tout de suite, très rapidement, en fait, a mis ça en place. Et en fait, j'ai été saisie, quoi, par ce désir-là, ces choses-là. Et donc voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée au Kyrgyzstan.
Et à quel endroit du Kyrgyzstan?
À Bishkek au départ, et puis après, j'ai un petit peu circulé, mais pas beaucoup. À chaque fois, c'est parce qu'il y avait des amis qui pouvaient organiser des projections, puisque à chaque fois, dans ces lieux-là, j'arrive avec un petit paquet de films sur un disque dur, ou au début, c'était sur des DVD, et c'est des films, en général, muets, enfin, de l'avant-garde des années 20. Enfin, bon, je me souviens d'avoir montré La Coquille et le Clergyman, par exemple, à un groupe de femmes ouzbèques. À Samarkand, c'est complètement fou, mais c'est des moments assez magiques et assez forts. Et là, il se passe une rencontre, il y a un truc, et voilà. Et donc, quand il y a j'ai rencontré pas mal de personnes qui étaient déjà en place, enfin qui connaissaient des gens, des réseaux, etc., et qui pouvaient du coup assez rapidement constituer un groupe, enfin rassembler des personnes pour. Voilà, pour être là dans ces moments-là. Et c'est comme ça, en fait, que je me laisse guider par ces possibles-là, en fait. Et voilà.
Et donc chaque fois que tu vas dans des lieux, tu commences en tout cas par montrer des films.
Oui.
C'est un geste important que tu fais
pour rencontrer les gens, ouais. Et comme il y a la question de la langue qui se pose, parce que là en l'occurrence c'était l'ouzbek ou le russe, et que moi je parlais pas du tout aucune langue à ce moment-là, enfin de ces régions-là, le plus simple, parce que j'avais envie de montrer des films un peu je sais pas, différents, enfin en tout cas de les déplacer, de surprendre en fait les gens et de voir un peu ce que ça créait, ça provoquait. Donc, et puis que j'aime beaucoup ces films-là aussi de cette période-là, quoi, de l'avant-garde des années 20. Et donc voilà, donc j'ai mon stock de films et que je propose.
D'accord, tu peux nous donner les titres
des films? Donc il y a La Coquille et le Clergyman, c'était une séance qui m'avait assez frappée. C'est de Germaine Dulac.
Voilà.
Et après, sinon, j'ai des films de Hans Richter, j'ai des films de Man Ray. Dans mon lieu de film, d'Epstein, et puis aussi des films expérimentaux, plus par exemple des films de Len Lai, des films de McLaren, enfin voilà, j'ai des choses assez courtes et assez radicales, on va dire, enfin, en tout cas qui peuvent bousculer et dans lesquelles il n'y a pas forcément de parole, et qu'on comprend.
Et là, la projection, tu dis, du film du lac, c'est ça?
Oui.
Elle t'a marqué, pourquoi?
Mais je connais... Enfin, l'histoire, le film a été censuré à sa sortie en France, à l'époque, et a mis du temps avant de pouvoir être montré en salle, enfin, déjà ici. Et j'avais oublié, J'avais oublié pourquoi, et je ne pensais pas à un moment donné, il y a un bras qui arrache un chemisier, on voit une poitrine de femme, et puis je crois qu'il y a un autre moment, un baiser, mais du bout des lèvres, parce que c'est quand même des années 20, et c'est pas... Et en fait, de montrer ça à un groupe de femmes voilées en Ouzbékistan, en plus il y avait des garçons dans la salle... Aussi, c'était un moment où là, tout d'un coup, ça dure assez peu, je crois que c'est une quinzaine de secondes, et c'est presque un arrêt sur image, mais il y a eu un silence, un poids, enfin, tu sentais la force, quoi, de... Ah, c'était... Et là, je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que j'ai fait, montrer ce film-là, à ce moment-là, est-ce qu'elles vont partir, est-ce que... Et c'était... Ouais, non, c'était... Et après, il y a eu une discussion autour du film qui était aussi très très forte, parce qu'en plus, il y a un clergyman donc en costume dans le film, et la religion, et c'est très critique. Et c'est vrai que dans cet univers, enfin, dans ce contexte-là, c'était assez particulier. Mais enfin, voilà, c'est ce genre de choses-là qui, au départ, qui me permet, je pense, de rencontrer les gens, de comprendre, de connaître un peu, je sais pas, la façon d'être des gens, peut-être de penser, enfin pas de penser, mais de sentir les choses, plus que je lis jamais vraiment de livres ou d'études ou d'articles ou je sais pas quoi, en fait, sur le lieu dans lequel je vais. C'est plutôt par ce type d'expérience là, en fait, que j'apprends petit à petit à comprendre ce que je vois et ce que je vis autour. Enfin, et voilà, donc c'est long, en fait. C'est vrai que ça prend du temps.
Mais justement, là, j'ai envie de rebondir sur Jamilia, parce que donc, c'est un long métrage que tu as fait dans ces contrées-là. Donc, tu pourras nous dire peut-être plus précisément où exactement et avec qui aussi, parce qu'il y a un certain nombre de femmes que tu as rencontrées pour faire ce film. Et qui sont dans le film, qui témoignent, et pour beaucoup d'entre elles, enfin pour certaines d'entre elles qui ont vu le film 2 ans plus tard, t'es reparti là-bas et tu leur as montré. Et voilà, juste la question de l'objet, donc là c'est des films que tu montres et qui provoquent effectivement quelque chose chez l'autre, et j'ai l'impression que ça participe à se révéler à soi-même, ou en tout cas à se penser, et à penser peut-être la société dans laquelle tu vis, enfin beaucoup plus largement. Et avec Jamilia, tu pars d'un personnage fictif, d'un roman, il me semble, populaire là-bas. Voilà, si tu peux nous parler de ça, de comment tu... qu'est-ce que tu proposes à ces femmes, dans quel but, même si tu sais pas où tu vas exactement, forcément, et comment elles réagissent à ce qu'elles voient ensuite.
Je savais que je ne pouvais pas, de toute façon, développer, disons, une relation avec une femme ou quelques femmes, 2 ou 3 femmes, et les revoir plein de fois et faire un film avec juste 2 ou 3 personnes. Donc je savais que j'allais rencontrer plein de femmes différentes et que les temps que j'aurais avec elles seraient très courts, parfois 15 minutes, enfin vraiment parfois très très courts.
Pourquoi ?
Et parce que... parce qu'elles étaient disponibles au moment où j'arrivais, mais qu'à n'importe quel moment il y avait un coup de fil qui pouvait arriver, ou la belle-mère ou le mari, et leur demander de s'interrompre et de faire autre chose, et qu'elles n'avaient pas forcément elles disposaient pas de temps vraiment à elles, et donc il fallait qu'elles soient seules, et puis avec aussi la crainte peut-être de parler devant aussi d'autres personnes. Enfin, il fallait aussi qu'elles soient seules et qu'on les entende pas. Moi, je prenais leur histoire et après, je m'en allais. Enfin, je partais. Donc, c'était un cadeau. Elles savaient que j'allais pas rester et faire écouter ou en parler à d'autres. Et donc, c'était ça le dispositif. Et donc, je les rencontrais avec ce personnage de Jamilia et je leur demandais de me parler de Jamilia, ce qui était très... très facile et possible, parce que elles aiment beaucoup Jamilia, enfin à la fois le personnage et le texte qu'elles ont lu, enfin, elles et les hommes aussi, enfin tout le monde a lu ça au Kyrgyzstan, cet ouvrage-là, parce que il est dans les programmes scolaires, parce que c'est un roman qui a été très très, enfin, publié, adapté au cinéma, adapté au théâtre, depuis, enfin, presque après sitôt sa paru. Il a été paru, édité en 1958. Et ce qui fait que des femmes assez âgées le connaissent aussi, mais aussi des plus jeunes. Et donc, avec ce personnage-là, en fait, tout avait quelque chose à raconter. C'est un personnage qui n'est pas... Enfin, c'est pas elle. Elle parle pas d'elle-même. Elle parle d'un personnage qui n'existe pas. Et qui... qui les porte. Parce que c'est une jeune femme qui a pris sa vie en main et qui a quitté sa famille et qui est partie avec son amant. Mais c'est ce qui se fait absolument pas. Et en même temps, ce dont beaucoup de jeunes femmes... rêvent dans la mesure où elles ont été mariées, elles n'ont pas choisi l'homme. Ou d'ailleurs là-bas, on n'épouse pas un homme, on épouse une famille. Et donc, elles se retrouvent coincées dans une belle famille qui n'est pas toujours sympa. Et donc, Jamilia, qui a réussi à sortir de ce schéma-là, ça les... Ouais, c'est... elles en parlent avec le sourire, avec les yeux, avec tout ça. Enfin, vraiment, donc c'était ça. Moi, je leur parlais pas de film au départ. Enfin, j'avais expliqué à mon interprète ce que je faisais. Je lui avais montré des films, les premiers films expérimentaux Super 8, enfin très presque abstraits que j'avais fait, assez radical et exprès pour qu'elles puissent expliquer aux femmes. Ce que j'allais faire avec les images que je prenais et avec les paroles que j'allais enregistrer. Et il se trouve que c'est quelqu'un avec qui j'avais vraiment une affinité assez forte. Et même si elle n'a jamais été à la capitale, enfin, mon interprète, et qu'elle elle est d'un autre milieu, d'un autre contexte. Enfin, voilà. Donc elle était capable d'expliquer ça, et donc d'expliquer aux femmes que j'allais faire un film, mais que j'allais pas les filmer, par exemple. Parce qu'avec le Super 8, j'avais très très peu de bobines, et que donc si je les filmais, comme je filmais, je sais pas, peut-être un plan de une minute seulement, enfin je m'étais imposé ce schéma-là, et donc ça rassurait, alors d'une certaine façon ça rassurait les femmes qui acceptaient de me parler parce que j'allais pas les filmer et que finalement c'était pas très sérieux puisqu'on fait pas un film si on filme pas, enfin, donc il y avait quelque chose comme ça. Et en même temps, à la fin de la rencontre, souvent elle me disait ok, tu peux, alors est-ce que tu vas me filmer, filme-moi quand même. Et donc là je pouvais les filmer, mais en général c'était très très rapide, très bref, parce qu'il restait, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, enfin, il fallait que je sache ce que je voulais et comment je le voulais. Enfin, il a fallu que je me force à accepter ce temps-là, en fait, à me mettre dans un autre rapport au temps et de pas pouvoir prendre le temps avec elle, en fait. Et on s'y fait. Je ne sais pas, à la fin, je vois la dernière femme que j'ai rencontrée, j'avais vraiment juste 15 minutes avec elle. J'ai eu l'impression qu'il s'écoulait une heure. On a eu le temps de tout faire. Et en même temps, avec cette pression-là qu'elles ont aussi, de toute façon, elles savent, elles sont dans ce temps-là. Elles n'ont jamais de temps pour elles. Donc elles, dès qu'elles ont 15 minutes, finalement, avec moi, elles donnaient tout. Et elles allaient tout de suite à l'essentiel. Voilà, les choses étaient possibles, la rencontre était possible.
C'est drôle, parce que ça fait une correspondance un peu par rapport à la... quand on tourne en Super 8, où on a peu de temps, donc on va à l'essentiel, quoi.
Ouais.
T'as l'impression qu'elles aussi, elles sont dans ces manières d'habiter qu'on a quand on filme en Super 8, quoi.
Oui, il y a quelque chose un peu comme ça, ouais.
Ça s'est rencontré, ouais.
Ouais. Oui, je pense. Enfin, donc, moi, j'avais pas forcément conscience au départ, mais qui s'est, petit à petit, on s'est ajusté, et il y a un truc, ouais. On a réussi à se... Ouais.
Et comment elles ont vu le film, alors, quand t'es...
Elles ont...
Allé le projeter.
Ouais, je suis allée le projeter. Elles avaient pas du tout l'idée de ce que j'allais faire, même si... Parce qu'elles, elles avaient pas vu d'image Super 8 et tout. Mais elles ont commenté le film en chuchotant. C'est étonnant, parce qu'il y a plein de moments, elles ont vu beaucoup de liens, en fait, avec le roman de Jamilia. Dans beaucoup, beaucoup de plans du film, enfin que j'avais tourné, et qui pour moi me semblait, enfin moi j'étais étonnée, enfin je me suis dit que je m'étais imprégnée du texte tellement qu'il y avait des choses qui étaient ressorties dans les images sans que moi j'en ai conscience, mais que elle pouvait lire, enfin voir. Et en même temps, donc elles étaient très attentives aux récits les unes des autres. À la fin, elles se sont retrouvées, elles m'ont dit que j'avais percé leur secret, que je les avais bien eues, que c'était vraiment elles, qu'il fallait montrer le film, que je les avais, enfin j'avais compris en fait ce qui faisait leur vie. Enfin c'est ça qu'elles ont. Mais ce qui était très étonnant, c'est que c'était pas uniquement au travers des paroles en fait et des récits, mais qu'il y avait qu'elles ressentaient qu'il s'était passé quelque chose entre les sons que j'avais choisis et les images, ces images qui les ont surprises et qui sont presque, enfin pas réalistes mais elles y ont trouvé du sens en fait. C'était un drôle de moment. Enfin elles ont pas et voilà elles étaient fières. Enfin elles ont voulu le montrer après, mais sans forcément être présentes dans les projections. Il fallait par contre pas que je les montre dans les lieux d'où elles étaient originaires, parce que d'une certaine façon c'est quand même politique et engagé, enfin c'est-à-dire là-bas elles, ce qu'elles disent c'est déjà énorme et ça peut être mal pris par leurs proches. Mais par contre j'ai fait 3 projections ailleurs. Et là, autant les femmes que les hommes n'ont pas apprécié le film, enfin les récits en fait de ces femmes-là, et ont trouvé que c'était pas ça la vie des femmes au Kyrgyzstan, et qu'il fallait pas montrer cette image-là. Et donc il y a vraiment eu, c'est très étonnant parce que les deux regards sont radicalement opposés, mais les femmes du film, ouais, s'y sont retrouvées.
Ouais. Parce que, non mais j'ai l'impression que tu vois cette boîte là à enregistrer, la boîte son, la boîte image. Je sais pas, l'autre fois j'écoutais Pedro Costa qui parlait et qui disait finalement quand on filme, enfin le cinéma c'est aussi la mort quoi, c'est la boîte à mort quoi, c'est-à-dire que ce que tu enfermes là-dedans, bah tu d'une certaine manière, ça n'est plus ensuite. Donc ça ferme quelque chose. Mais moi, j'ai l'impression que tout au contraire, tu ouvres quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes que tu as filmées, à qui tu montres le film, elles sentent quelque chose de vivant. Et en fait, c'est comme une révélation. Ça agit comme révélateur. Et des personnes dans la même société, qui est quand même une société vraisemblablement, enfin qui est manifestement très bridée, n'acceptent pas ça. Mais peut-être que ces mêmes personnes, ces spectateurs, si tu les avais filmés, elles et eux, et qu'ils s'étaient révélés à eux-mêmes à travers ça, en fait, ils l'auraient pris autrement. Mais là, ils agissent un peu comme des censeurs, comme s'il fallait quand même garde-fou. Et on n'accepte pas ça. Voilà, je voulais juste. Voilà, c'est le geste du cinéma et ça j'aimerais bien que si tu peux puiser un peu aussi dans ton héritage dont tu parles si c'est possible pour toi, mais le cinéma j'ai l'impression qu'il vient de plus loin encore que la première expérience dont tu nous parlais tout à l'heure, j'ai l'impression que ça vient de très loin, j'y vais un peu frontalement peut-être, c'est vrai
ouais,
il y a un territoire que t'as évité longtemps.
Oui, oui, oui. Ouais, là, je suis obligée de.
T'es pas obligée du tout. Je sais pas si t'as envie de parler de.
Non,
de,
voilà, c'est vrai de, que de... je suis jamais. Ben oui, j'ai évité l'Afrique. Ça, c'est sûr. J'ai évité ce territoire-là, mais parce que. J'ai l'impression que c'était très familier, trop familier pour moi. Et parce que. Ma mère était ethnologue et qu'elle a travaillé au Niger une trentaine d'années. Et que donc, j'ai jamais été au Niger, mais que j'ai grandi dans un univers presque... Enfin, pas nigérien, puisque c'est un univers d'ethnologue, d'anthropologue, africaniste, on va dire. Et donc, je ne sais pas, peut-être que, oui, sûrement que j'ai pris des choses de ce rapport au terrain, ou en tout cas au temps à passer avec des gens qu'on ne connaît pas, mais du coup à comprendre les choses autrement, en fait, qu'en lisant des livres, et à aussi à observer, à être dans cet état d'observation et d'attention aux autres ou à l'autre, et à percevoir des choses pas uniquement parce que ce qu'il va dire, mais aussi par la façon dont il est, dont il habite oui, un espace, et puis voilà, et donc c'est le rapport au cinéma. Ma mère a fait des films, donc je pense que c'est passé ailleurs, parce que j'ai pas souvenir d'avoir entendu parler de cinéma non plus, donc les choses se transmettent, je sais pas comment, mais en tout cas c'était là, enfin voilà, c'est juste là. Et mais c'est plus qu'après on se fabrique ses propres façons de faire, enfin ses propres recettes ou mixtures, et que moi j'ai mêlé très rapidement je sais pas la musique et les sons et le fait de faire des images avec ce rapport aussi à l'autre et au, je sais pas, en fait je saurais pas dire, c'est comme ça, enfin je le vis, je le pense pas, je pense que je l'analyse pas, je le théorise pas, enfin.
Et cette croyance dans l'image désynchronisée du son, c'est quand même très très particulier.
Oui.
Et de pas être dans une reproduction de ce que tu filmes, de la réalité qu'il y a autour de toi, et que tu cherches une forme d'abstraction ou en tout cas de transformation. Ça, cette croyance-là, elle est, tu sais d'où elle est venue ? Ce désir ?
Oui, c'est peut-être plus quelque chose de l'ordre du désir. J'ai fait de la musique beaucoup quand j'étais enfant. Enfin, j'ai fait beaucoup de conservatoire et du piano et ensuite du chant et... du chant polyphonique italien, enfin avec Giovanna Marini à Saint-Denis. Elle a enseigné 4 années et en fait c'était un enseignement par la pratique, on chantait et elle disait qu'elle nous apprenait à chanter faux, parce que l'échelle musicale est pas l'échelle musicale normale. Il y avait des partitions avec des notes qui avaient des petites flèches vers le haut, des petites flèches vers le bas par exemple, pour être un peu entre, parce que et donc en fait avec elle, enfin avec cet enseignement là, je pense que ça fait voler en éclats complètement cet enseignement du conservatoire classique, où on est très attaché à une partition et à un certain des sons, à ce qu'on appelle musique, et tout le reste qui serait bruit, enfin musique savante, enfin et en fait, avec Giovanna Marini, tout devenait musique. Tout devenait musical, fait musical. Et c'était le moment où j'ai aussi commencé à travailler, à découvrir l'ethnomusicologie, mais vraiment par le terrain, par ces terrains que j'ai commencé là en Bolivie, et où là aussi, des bruits, de la voix simplement, parler ou chuchoter, pouvaient avoir autant d'importance. Que la musique, enfin, je sais pas, une pièce de violon ou des choses comme ça. Et là, je pense que j'ai commencé à filmer en Super 8 à ce moment-là aussi, parce que c'était le plus accessible pour moi, parce que les caméras vidéo coûtaient trop cher, que je voulais filmer, que je me suis dit, je vais commencer avec des bobines. Enfin, c'est voilà, et que j'ai commencé à faire se rencontrer les deux, et à me rendre compte que je pouvais recréer. J'avais l'impression que je recréais un univers sonore avec des images. Enfin, c'est très, je sais pas, c'est C'est très bizarre de parler de l'image en termes sonores, mais il y a vraiment quelque chose comme ça, comme si l'image était aussi un instrument, enfin aussi un, enfin oui, un instrument ou en tout cas une source sonore aussi, enfin à l'égal vraiment d'un bruit, d'une voix ou de ce qu'on appelle musique nous ici. Ou... Et en fait, j'ai eu envie de travailler ces rencontres-là tout de suite et avec le cinéma. Mais donc forcément, ça te, t'es obligé, enfin t'es pas que t'es obligé, mais tu n'es plus dans quelque chose de réaliste, enfin d'attaché, enfin réel avec la vidéo, puisqu'avec la vidéo, t'as une image très très nette. Et puis tu as le son synchrone en fait. Et le son synchrone, ça t'enlève, je sais pas, enfin ça t'enlève, ça te ramène à la terre, à quelque chose, enfin je sais pas, c'est très très concret, très... Alors que si tu sépares les deux, ça te décuple tous les possibles. Enfin, c'est assez fantastique. Enfin, moi, c'est ça qui me... C'est une sorte de deuxième tournage ou de deuxième... Enfin, un nouveau niveau d'écriture de cinéma, en fait. Et qui est aussi important que le moment de l'enregistrement des images et des sons. Et je sais pas, c'était presque évident pour moi, en fait. Et j'ai eu beaucoup de mal à filmer en vidéo. Enfin, j'ai un peu moins de mal aujourd'hui, mais parce que j'arrive maintenant à séparer le son de l'image aussi en vidéo. Mais pendant des années, j'arrivais pas. Enfin, c'était impossible. J'ai l'impression qu'on pouvait pas avoir cette liberté dans le montage, de travailler l'image vidéo aussi nette, aussi parfaite. Et avec le son, j'ai l'impression qu'on pouvait pas décoller du son synchrone. Et ça, voilà, je... Donc...
T'as un film où... Je pensais au film Marco, c'est ça?
Oui.
Dans ce film, en tout cas, quand on le voit, on a l'impression... Est-ce que dans ce film-là, par exemple, c'est le genre de film où tu considères que tu n'as pas décroché le son de l'image?
Si, là, j'ai réussi.
D'accord.
J'ai réussi. Enfin, j'ai réussi. Je me suis forcée. Enfin, j'ai filmé en vidéo et... mais bon, c'était de la DV aussi, et donc c'est pas non plus cette image numérique absolument parfaite. Pendant le tournage, j'avais mon petit Nagra à côté, et je continuais à enregistrer des sons seuls, comme je le fais quand je pars avec la caméra Super 8.
D'accord.
Et donc j'avais beaucoup de sons, de matière sonore, pas seulement des entretiens en fait, que j'ai travaillé au montage, et au moment du montage j'ai dissocié, j'ai enlevé le son en fait de l'image vidéo et j'ai recomposé à partir de là.
D'accord.
Et c'était important pour moi d'arriver à faire ce chemin là et j'ai l'impression que j'avais aussi déjà beaucoup enregistré de sons en Bolivie. Marco, il est bolivien, et je l'avais rencontré en Bolivie au moment où je faisais tout ce travail d'ethnomusicologie et voilà, où je l'avais aussi filmé un petit peu, et donc il y a tous ces sons là que j'avais en moi pendant que je tournais, et donc quand je faisais des images en vidéo, je les associais presque déjà à un univers sonore que j'avais, et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi aussi à me détacher du son synchrone. Parce que sinon, je n'ai jamais réussi à filmer en vidéo. Mais
tu vois, moi, je n'ai pas pu voir Marco. Tu l'as vu, toi?
Ouais. Mais je l'ai déjà vu il y a un petit moment.
Ouais. Ouais, du coup, moi, ça m'a intriguée. J'aimerais beaucoup le voir. Et c'est un Marco entre parenthèses.
Oui.
Et il y a un texte, je ne sais plus qui l'a écrit, mais que tu avais envoyé sur le site de Dérive. Qui est-ce qui a écrit ce texte
Sur Marco?
Ouais.
Je crois que c'est Abralcor, c'est Damien Marguet, si je me trompe pas.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Je sais pas si tu reconnais le film dans ce qu'il dit.
Oui.
Voilà. Oui. Non, parce qu'en fait, tu vois, tu parles de désynchronisation, on a bien vu dans certains films tournés pour le coup en Super 8, etc., où en fait il y a des surgissements, des silences. Enfin, c'est vrai que c'est de la musique en fait. c'est vraiment de la musique. Et juste une chose par rapport à ça, c'est quand bien même j'y reviens, cette façon de fabriquer avec une forme de radicalité, mais pas du tout provocatrice, c'est-à-dire un déterminisme, enfin voilà, c'est là, c'est comme ça que tu travailles, tu te détaches de ce que tu as filmé aussi, d'une certaine manière, tu retrouves la matière autrement, et en fait, j'ai l'impression que tu restes quand même, alors j'ai pas vu Marco, mais de ce que j'en ai compris, très attaché aux personnes que tu rencontres.
Oui.
Voilà, c'est-à-dire que sa parole... sa vie à lui, ce qu'il vit là, à ce moment-là, qui est très particulier, tu y restes absolument sensible et que ça, on ne le perd pas. Il n'est pas instrumentalisé.
Non, oui. Bah, ça me semble essentiel, mais important. Et puis aussi parce que si je filme des gens, ou même si je suis dans un lieu, moi j'ai besoin de connaître la personne, en fait, mais de la connaître, je ne sais pas, de l'intérieur, enfin, intimement, et d'avoir compris, enfin, ou senti des choses de son mode de pensée, ou d'être, ou de rapport au monde, et donc, du coup, forcément, que c'est quelqu'un, oui, enfin, c'est comme un paysage, en fait, que, je sais pas, qu'on filme, enfin, c'est une personne, et donc, c'est pareil, ça a été pareil avec les femmes, paradoxalement, dans Jamilia, que j'ai filmé et que j'ai rencontré, même si je les ai rencontrées à chaque fois très peu de temps chacune, je crois que le fait d'avoir rencontré tellement de femmes au fil de ces années de préparation de Jamilia, je pense que j'ai dû avoir des conversations, des rencontres avec 200 femmes, quelque chose comme ça. Donc, en fait, ce qui fait que je... Oui, j'ai peut-être... ça m'a permis d'accéder assez rapidement à ce rapport-là, en fait, avec elle. Et du coup, on peut restituer, enfin, pas restituer, mais capter quelque chose de la personne, en fait. Ça me semble évident, ça peut pas être autrement, c'est parce que je suis pas... Moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma aussi, même si c'est abstrait, même si j'en fais quelque chose d'autre après qui est plus réaliste, c'est... au départ, c'est quand même la rencontre avec les gens, et cette rencontre, et ce qui se passe entre moi et la personne que je filme, c'est pas juste la personne non plus, en fait. Ça dépend aussi de la relation qui peut se mettre en place, même si c'est sur un temps court. Et donc, c'est aussi dans l'échange avec lui ou avec elle. Enfin, Marco, c'est aussi quelqu'un que je connais depuis très longtemps, enfin, que j'ai rencontré en 2003, qui est devenu un ami très proche. Et donc, on se connaît aussi très bien. Et il a accepté aussi le jeu du film. Donc, il s'est aussi donné. Et ça a été possible pour ça aussi, en fait. S'il y a pas ça... je ne pourrais pas filmer, en fait, quelqu'un. Ouais.
Moi, ça me fait réfléchir en me disant, t'es quand même arrivé dans le cinéma un peu par l'ethnomusicologie, on peut dire.
Entre autres, oui.
En tout cas.
Oui.
Et après, tu l'as pas mal quitté, ça, on va dire. Ce rapport à l'ethnologie pendant un certain temps, et puis on va en parler sûrement après, et t'y reviens.
Ouais.
Et ça me fait poser la question de... Vas-y, Claudia. Ça me fait poser la question de... Qu'est-ce que tu en raconterais de comment le cinéma que tu fais, bah, il a un lien avec l'ethnologie, puis à la fois il s'en éloigne aussi. Ou quel est ce rapport-là, qui est un rapport de qu'est-ce qu'on peut retrouver, et puis à la fois de qu'est-ce qu'il ne faut pas retrouver dans ce rapport-là, ou qui peut être...
Mais j'ai l'impression que, d'une certaine façon, l'ethnologie, enfin, que ça ne me quitte pas, enfin, que c'est en moi, mais que je ne suis pas ethnologue, ni rien du tout, que ce rapport à l'ethnologie, il est au travers de ce qu'on appelle le terrain, enfin du travail de terrain pour un ethnologue, enfin, et moi c'est ce rapport-là, en fait, au temps, il y a l'espace, et à comprendre les choses sans jamais poser de questions, en fait. J'ai pas vraiment fait d'études d'ethnologie, d'ailleurs. Enfin, en anthropologie, en ethnomusicologie, on est dans le département de musique, donc on travaille autrement. Enfin, c'est plutôt... donc, j'ai pas tout cet apprentissage théorique, enfin, des écrits, anthropologues, enfin, d'histoire et tout ça. Donc, c'est vraiment physique, enfin, par l'expérience. C'est ce rapport-là à l'expérience et à l'expérimentation, peut-être, qui est là, auquel je suis attachée. Et qui fait aussi que je suis très lente, je pense, enfin, par rapport à... Enfin, que j'ai besoin de temps pour sentir les choses et les comprendre, puisque je vais pas forcément poser de questions, et que, en tout cas, je vais pas mettre en place une relation avec des gens par ce biais-là, en fait, de poser des questions à un informateur qui m'expliquerait, en fait, qui me décrypterait ce qui se passe autour. Et que le finalement ce que je crée avec cette connaissance là des gens et du lieu, ça va être des films un peu je sais pas, c'est pas des films expérimentaux, mais c'est pas du documentaire enfin je sais pas très bien comment les... mais en tout cas c'est pas scientifique, c'est pas des films ethnographiques. Mmh. Et c'est plus de l'ordre du sensible, peut-être il y a de la poésie aussi dedans, peut-être, enfin je sais pas, mais tout se mêle, en fait, et
et Jean Rouch, il a compté pour toi?
Il est compté, bah oui. Enfin, oui, j'ai beaucoup vu ces films. C'est les premiers films que j'ai vus finalement dans ma vie. C'était des films ethnographiques et des films de Jean Rouch, parce que j'accompagnais ma mère à toutes ces projections-là, parce qu'il fallait bien que je... Enfin, voilà, il fallait bien que je voyais quelque part, donc je sais pas, je devais avoir 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, et je me souviens avoir passé les semaines où ça s'appelait le bilan du film ethnographique, ça durait une semaine, toute la journée, et que moi j'étais là avec mes cahiers de dessin, et pendant les débats je dessinais, et pendant les films je regardais les films, ces films ethnographiques à l'époque n'étaient pas... Enfin, qu'est-ce qu'ils étaient, on va dire, et un peu bricolés. Et donc, il y avait aussi beaucoup de films de Jean Rouch. Donc, j'ai été nourrie, en fait, de tout ce cinéma-là. Et moi, ce que je sais, c'est que quand je me suis dit c'est le cinéma qui m'intéresse, je voulais surtout pas faire de film ethnographique, mais alors surtout pas, parce que justement, pour moi, c'était pas du cinéma. Et qu'il fallait que je me détache de ça. Et donc, je me suis dit, bon, ça va être du documentaire. Mais je ne savais pas forcément très bien ce que c'était que le documentaire, mais je me disais ça sera sûrement mieux que ces films-là, parce que je les trouvais mal filmés, qu'il y avait trop de paroles, que c'était... Oui, enfin, c'était comme des textes, mais en pire, parce qu'on ne voyait rien, parce que les gens qui filmaient... Parce qu'à ce moment-là, c'était il y a longtemps, et c'était les débuts, quoi, et de ce type de cinéma-là. Et donc, c'était pas des cinéastes, c'était des chercheurs qui prenaient la caméra et qui faisaient ce qu'ils pouvaient avec, sans avoir eu d'enseignement et tout ça. Bon, évidemment, il y a des cinéastes qui faisaient des choses fortes et tout, mais... voilà. Et puis, il y avait les films de Jean Rouch, donc qui sortaient forcément qui se détachait, et puis il y avait une inventivité, enfin quelque chose de très fort, oui, donc ça m'a marqué. Et après je me souviens enfin de l'avoir entendu parler beaucoup aussi de ces films, mais quand on grand, enfin je sais pas, j'étais ado, donc je sais pas, enfin on retient, mais on prend des choses forcément, mais... Donc ça, oui. Ça...
Mais tu as quand même beaucoup fait de films, on va dire, ailleurs,
oui.
Loin.
Oui.
Et t'en es où de ce chemin-là par rapport à filmer l'ailleurs, est-ce que c'est toujours quelque chose qui est un désir fort, ou est-ce que ton désir a un peu bougé avec le temps qui passe?
J'ai l'impression que même en filmant en France, de toute façon, c'est forcément l'ailleurs. Parce que.
L'ailleurs physique. Alors peut-être pas cette. L'ailleurs concret. Ouais, voilà.
Territoire, oui. Si je filme l'ailleurs, je pense que je retournerai sûrement en Asie centrale pour continuer, parce que par contre, je peux pas aller filmer l'ailleurs sans y passer du temps et sans comprendre ce qui se passe d'abord. Je n'ai pas envie de prendre ce temps-là dans un nouveau territoire, je crois, parce que je suis allée en 2006 la première fois en Asie centrale, j'y suis allée tous les ans, ça dure 12 ans, et j'ai l'impression que c'est seulement maintenant que je commence à saisir un tout petit peu de choses et que je pourrais commencer à filmer, en fait. Donc oui, ce serait peut-être là, mais là, j'ai envie de me recentrer. J'ai l'impression que maintenant, je peux filmer ici. Parce que j'arriverai à savoir comment. J'ai mis suffisamment de distance, en fait. Enfin, mon regard est suffisamment éloigné, enfin, à suffisamment de distance pour pouvoir revenir ici. Et peut-être percevoir des choses que je ne voyais pas jusque-là. Et les comprendre et les filmer. Je sais pas. Je suis là, l'ailleurs. Mais en fait, j'ai tellement voyagé, enfin, été dans beaucoup d'endroits que c'est pas si étranger que ça. Enfin, c'est paradoxal ce que je viens de dire là, en fait, complètement, puisque je dis qu'il faut que je passe des années, en fait, dans un lieu avant de pouvoir le filmer, et qu'en même temps, je me sens chez moi ailleurs. Donc, c'est un drôle de truc.
En effet, de contradictions et de paradoxes. Ouais,
c'est ouais, là, partout,
je suis étrangère partout et nulle part. Je peux filmer, je pourrais filmer ici, en France, parce que je pars de l'ailleurs, enfin du Niger, là en l'occurrence, c'est des archives de ma mère, donc qui donc m'emmène quand même ailleurs, ici, en fait. Et que c'est possible comme ça. Moi, je me sens fabriquée, constituée de plein d'identités. Enfin, je me suis fabriquée à partir de plein d'identités différentes, plein de rencontres différentes de partout dans le monde, et donc pas spécialement attachée à la France et...
Oui, d'ailleurs, quand tu filmes ces femmes, parce que je m'embrouille avec les trois pays de l'Asie centrale, je connais très mal ce coin, Kyrgyzstan. En fait, finalement, c'est un film qui paraît très universel. C'est-à-dire que c'est ancré dans une zone géographique du monde, mais en fait, c'est tout ce qui les traverse et ce qu'elles expriment, finalement, ça peut toucher n'importe quelle femme, voire des hommes dans le monde, quoi.
Oui. Sauf que les spectateurs en Europe n'ont pas ressenti ça, en fait. Ce rapprochement-là, ils se sont dit, c'est les autres quand même, c'est pas nous. Ça, c'est très particulier à la France, je pense, d'ailleurs. Et alors que, oui, non, je pense en Italie, les femmes se sont plus identifiées aux femmes du film, au Brésil, enfin partout dans le monde, en Roumanie, tout ça. Mais en France, non. En France, c'était les autres, loin, là-bas, à la campagne, les femmes musulmanes. Non, ça, donc je pense que nous, on est très... Enfin, nous, en France, on est très refermés, en fait, sur nous-mêmes. Et je pense que moi, j'ai besoin d'avoir cette présence, enfin, du monde aussi, en fait, là où je vis et dans mon travail aussi. Et donc c'est pour ça que le projet sur lequel je travaille, forcément, il est parti des archives de ma mère, et donc il y aura une partie qui sera en France, enfin en Europe en tout cas, si c'est la Belgique où je vais filmer, mais, Mais c'est possible parce que j'ai cette ouverture-là sur le Niger et sur un autre territoire. Et cette autre façon-là, enfin de rentrer dans une autre représentation du monde et d'un autre rapport à l'autre, effectivement, enfin, qui n'est pas en France, mais qui va peut-être permettre de comprendre des choses de nous, ici. Peut-être que ce sera plus facile parce que y a ce lien avec la France, enfin obligé, puisque c'est le Niger et que c'est une ancienne colonie et tout ça. Et que là, ça sera plus évident pour des spectateurs ici, si j'arrive à mener le film au bout.
Et pour Jemilia, avant qu'on passe peut-être à ton projet maintenant, je demandais, jusqu'à présent, tes films, ils avaient circulé dans des petits circuits. Et là, j'ai l'impression qu'il a eu un écho plus grand. Enfin, il a été à la Berlinale, au Cinéma du Réel. Il a été acheté par Arte.
Ouais.
Comment toi, t'as vécu ça? Et pourquoi, et à ton avis, pourquoi c'est arrivé là, avec ce film-là?
Bah alors ça... non, c'est super. Enfin, vraiment, j'étais très très contente que le film puisse être vu, en fait, par autant de monde, parce que le fait d'avoir été montré à la Berlinale a ensuite ouvert la porte à beaucoup d'autres festivals de par le monde. Effectivement, il y a eu Arte, enfin, ici. Et c'est le premier film qui a été autant vu. Et pour lesquels aussi j'ai eu beaucoup de retours, puisque j'ai accompagné le film en festival. Et de retours de gens très différents, puisque de la Roumanie, au Brésil, à la Turquie. Enfin, vraiment, c'est des... Et donc, c'était très fort, en fait. Moi, c'était très fort parce que le film a vraiment touché aussi, partout, sauf en France, mais enfin moins en France, des spectateurs de festivals, enfin comme ça, il y a vraiment eu, mais peut-être à cause de ce, enfin pour cette identification là qui a été plus évidente en fait hors France, avec les femmes, avec la condition des femmes aussi et tout ça. Et jusque-là, on m'avait souvent dit que c'était élitiste, parce que c'était en Super 8, parce que peut-être c'était justement plus abstrait, enfin pas une image réaliste, et avec ce travail sur le son, que c'était moins accessible qu'un film plus normal, entre guillemets. Et en fait, de voir à quel point ça pouvait toucher tellement de gens... qui ne sont pas forcément du monde du cinéma ou de l'art, enfin vraiment tout le monde. Là, enfin je me suis dit, mais c'est du cinéma, c'est pour ça aussi que finalement je voulais faire des films. Enfin, jusque là, j'avais pas pu accéder à tous ces spectateurs là en fait de partout. Donc c'était très très beau. Enfin ouais, quand ça se produit, c'est... Ouais, c'est bien. Après, je sais aussi que ça a été important pour les femmes. Parce que quand je suis revenue pour montrer le film au Kyrgyzstan, le film avait déjà circulé un peu. Enfin, ça faisait déjà 6 mois qu'il avait un peu été partout dans le monde. Et que ça les a vraiment transportées, en fait, elles. Et que ça leur a presque donné plus d'assurance, plus de poids. J'avais préparé un petit livret où j'avais photocopié, puisque dans chaque projection, j'avais demandé aux spectateurs de m'écrire des mots, en fait, pour ensuite pouvoir les ramener aux femmes au Kyrgyzstan, enfin, les femmes du film. Et donc, et j'avais fait traduire en russe tous ces mots-là, et elles avaient été éblouies, enfin, vraiment aussi, par ces retours, en fait, qui venaient de partout. Et ça, de ramener ça aussi, en fait, aux femmes du film, c'était aussi un moment important pour moi, enfin essentiel, mais d'autant plus fort que je pouvais leur prouver d'une certaine façon que leur parole avait été entendue, avait bousculé aussi, enfin remué pas mal de monde partout. Donc ça, oui, quand on peut arriver Oui, avoir ces retours-là, c'est super, mais c'est rare. C'est rare, ouais. C'est vrai que c'est la première fois que les autres films n'ont pas été, ont pas circulé. Mais après, oui.
Et pour... Vas-y. Non, du coup, je demandais pour passer à un autre projet, du coup, ça a dû prendre du temps.
Oui, ben, le nouveau projet était déjà en germe au moment du tournage de Jamilia. Enfin, du coup, je l'ai mis de côté. Oui, j'ai accompagné le film quand même presque un an et demi en festival et tout ça. Donc là, je pouvais, après avoir terminé le film, donc je concrètement, j'avais pas le temps ni la tête pour pouvoir me consacrer à ce nouveau projet. Et après. Là, ça fait un an que j'y travaille. Oui, peut-être ça a mis un an et demi, deux ans après Jamilia. Là, maintenant, oui, maintenant Jamilia est vraiment derrière. Donc, je sens que c'est possible, que je suis aussi disponible pour, enfin, que je suis passée à autre chose. Enfin, ça, il a fallu aussi du temps avant de pouvoir me détacher aussi de cet univers-là, en fait. Et aussi. À avoir le, je sais pas, le désir, enfin l'énergie de recevoir des nouvelles vies d'une certaine façon, des nouvelles rencontres, parce que c'est pas rien, enfin parce que du coup j'y mets beaucoup du mien, on va dire, et que surtout aussi tous ces récits, enfin que j'ai reçus et toutes ces rencontres avec ces femmes, enfin qui ont des vies pas forcément faciles, enfin il faut aussi le, enfin ça c'est ça peut, ça a été assez lourd à un moment donné, et que j'ai senti que je pouvais pas me réembarquer non plus dans un autre projet de manière aussi, enfin il faut que, enfin c'est forcément intense, donc il faut avoir les épaules et voilà, ouais.
Mais justement, oui, on file vers le présent et l'avenir, là, mais j'ai l'impression, là, à grands pas. Mais en fait, c'est drôle parce que tu parlais des spectateurs français, enfin, des spectateurs qui ont vu ce film en France. Et j'ai l'impression qu'avec ce que tu es en train d'entreprendre, déjà depuis un moment, tu sais un peu, tu découvres avec quoi tu pars, avec quoi, ce avec quoi tu travailles. Et bien évidemment, tu sais pas ce vers quoi tu vas, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même l'une de tes quêtes, parce qu'il y a des quêtes forcément, c'est quand même aussi un regard rétrospectif, hein, c'est-à-dire ce territoire, l'Afrique que tu as longtemps évité, pour mille raisons qui t'appartiennent, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi que c'était un territoire compliqué, et que d'une certaine façon, ce film, quand il verra le jour, il nous aidera, nous, Français, à regarder l'histoire. Parce qu'on parlait de territoire géographique, mais j'ai l'impression quand même que toi, tu convoques aussi l'histoire, le passé. Et est-ce que tu peux juste... Voilà, aujourd'hui, après 20 ans, on va dire, de pratique, tu oses t'attaquer à quelque chose d'assez énorme, et pour toi, et pour nous autres. Donc, cette boucle-là.
Ouais. Ouais, j'ose m'attaquer à cette histoire. Du coup, pour préciser, enfin pour recontextualiser, donc c'est un projet à partir des archives donc de ma mère qui était ethnologue, qui a travaillé au Niger, et donc je vais pas aller au Niger, donc finalement les Nigériens que je vais rencontrer, ça va être en France et enfin en Europe. Et donc cette histoire-là, finalement, moi, j'ai jamais pu aller dans aucun pays africain parce que je, d'une certaine façon, j'assume pas cette part de l'histoire coloniale. Enfin, c'est pas que j'assume pas, c'est que je sais pas comment faire avec, en fait, dans les relations avec les gens, et que comme quand je travaille, j'ai besoin d'être en relation avec les gens et de enfin, il fallait déjà que je règle ça en fait en moi. C'est pas réglé, parce que c'est pas évident, et que dans la rencontre avec l'autre, on y est confronté en permanence à ce passé d'histoire, en fait, coloniale et actuelle, parce que c'est pas passé non plus, c'est encore actuel et présent, à la présence française en Afrique, et qui fait que dans les relations avec les Nigériens, c'est là, entre nous, et et que je découvre, en fait. Parce que même si c'est familier pour moi, ce Niger, c'est le Niger des années 70-80, tel que l'a côtoyé et rencontré ma mère à cette époque-là. Mais c'est pas... c'est pas moi aujourd'hui avec cette histoire-là. C'est pas facile, on va dire ça comme ça. C'est pas facile. Et c'est pas que je l'ai mis un petit peu de côté pour l'instant, mais donc j'ai commencé par travailler sur ces archives-là et sur les textes du passé et les images, parce que du coup, ici, là, j'ai pu dépourrir toutes les images 16 mm. Et en me disant que le terrain pour ce film-là commençait par cette approche-là, en fait, par cette connaissance, disons, revoir et revoir et réécouter et entendre tous ces sons et toutes ces paroles et tout ça. Et qu'une fois que je les connaîtrais presque par cœur, je pourrais aller à la rencontre des Nigériens et on verra ce qui se passera à ce moment-là, mais, mais ça va pas être simple. Ouais.
Mais peut-être
tu pourrais nous dire, nous décrire là où on est, et ce que tu y as fait, et nous montrer quelque chose.
Alors, on est dans la salle des machines du polygone étoilé. Il y a une table 16 mm. Sur laquelle j'ai travaillé pendant presque un mois, je pense, au total, et remettre en état toutes les pellicules que j'ai récupérées, qui ont été tournées en 16 mm dans les années 70. Et donc j'ai d'abord rescotché tout, et après, ce long travail-là, j'ai pu les découvrir, en fait, les visuels. Alors, je peux les mettre en route, mais on verra qu'est-ce qu'on... On verra pas grand-chose. On verra pas grand-chose dans la... Enfin, dans la mesure... Bon, donc j'ai... Voilà.
Tu les as aussi scannés.
Je les ai numérisés. Mais en fait, là, ces derniers jours, je suis repartie dans quelque chose de très expérimental, en fait. Où là, je suis retournée dans vraiment la matière première de la pellicule, presque quelque chose de très, très impressionniste et de très pictural, comme ces plans dans Djamilia qui grouillent, en fait, de grains. On a l'impression que c'est une toile de peinture et qu'on n'est plus dans le film. Enfin, et qui me manquait, je pense, parce que quand je me suis plongée là-dedans, là, ces 10 derniers jours, je me suis dit... Wow, là, c'est de nouveau quelque chose de très riche qui, en rencontrant le son, va pouvoir, en fait, avec des choses très minimalistes, peut-être faire comprendre et faire voir toutes ces images-là comme si on les voyait à 24 images secondes normalement. Mais en fait, je les passe à la manivelle, avec la manivelle, je ne sais pas comment ça s'appelle, de la table 16, qui permet d'avancer la pellicule très lentement. Donc c'est même pas de l'image par image, c'est moins que l'image par image, puisque on fait tourner la bande, et donc la lumière passe au travers du photogramme, mais sur l'écran, en fait, avec le dépoli, on voit jamais la même image, puisque elle est très abîmée, et donc il y a des rayures, il y a des bouts de colle, il y a des bouts de scotch qui sont jamais au même endroit sur chaque photogramme, et donc la lumière, quand elle rentre sur le photogramme, elle l'éclaire, elle le travaille, enfin on voit jamais la même chose, et quand même il y a malgré tout du mouvement, puisqu'il y a quand même ce mouvement, donc c'est le mouvement de la lumière, enfin parce que ça fait comme un la puissance de la lumière augmente, et, enfin, ce, je sais pas, bref,
pulsation.
Comme une pulsation, mais très très lente.
Scopique un peu.
Mais c'est très 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 lent, donc ça, ah ouais. Ça vient du noir et ça va à la lumière. Et ça retourne dans l'obscurité, et puis après ça fait réapparaître autre chose. Donc il y a quand même un mouvement, mais le mouvement de la lumière. Et comme il y a le dépoli et que l'image est très abîmée, il n'y a plus de contours nets. Il n'y a plus vraiment les mêmes couleurs, et donc ça donne quelque chose vraiment de l'ordre de la toile en fait, et du tableau. Et donc j'ai passé des journées à faire avancer quoi, le film de la pellicule comme ça, donc à voir pas grand chose, puisqu'il y a 24 images par seconde. Donc un plan qui dure, je sais pas, une minute, il y a quand même beaucoup de photogrammes. Et en fait, quand on pense que chaque photogramme, du coup, va raconter une histoire différente. Enfin, du coup, je me suis embarquée dans quelque chose qu'il faut que j'explore. Et donc j'ai refilmé cette image-là, en fait, sur le dépoli. Ce sont des essais. Et après quoi, je vais chez moi, en fait, avec les faire se rencontrer avec le son et voir ce que ça produit, en fait. Et donc en fait, j'ai numérisé des choses. Mais là, tout d'un coup, je me suis dit, mais si ça se trouve, je ne vais pas utiliser le scan normal, parce que c'est un autre univers, en fait. C'est un autre monde du cinéma.
Est-ce qu'il y avait quelque chose dans la reproduction réelle des images de ta mère qui te satisfaisait pas?
Non, c'est pas ça, parce qu'en plus, c'est magnifique. Enfin, il y a certaines rushes brutes qui sont restés très très bien conservés, et c'est très bien filmé, mais c'est que non, mais en fait je me demande comment par le cinéma, mais sans forcément avoir beaucoup de paroles, enfin en essayant de me détacher de la parole, parce que j'essaye de me détacher de la parole en fait, mais en fait j'y arrive pas, parce que dans Jamilia il y a beaucoup de récits, il y a beaucoup de paroles, là j'ai beaucoup de textes qui vont faire partie du film, mais j'ai cette idée que peut-être par un travail juste de l'image en fait et du son, je pourrais réussir à faire comprendre, à faire ressentir et comprendre la même chose, enfin sans qu'on ait besoin en fait du texte. Et donc pour moi ça passe par une abstraction en fait, enfin une forme peut-être plus abstraite. Et donc j'ai eu besoin de rentrer autrement en fait dans ces images là
du coup. Elles sont moins connotées d'une certaine temporalité.
Il y en a une autre, c'est une autre temporalité, c'est une autre temporalité, on l'œil s'attarde sur des choses, d'autres choses, peut-être juste une main, un mouvement, ou bien un pot qui est posé, alors ça au sol, autour duquel on se rend compte que les gens tournent, qui peut-être seraient restés complètement inaperçus. Mais c'est même pas seulement les détails de l'image, parce que c'est quand même aussi dans la temporalité, enfin le temps, et qui avec, mais ça fonctionne parce que aussi moi en regardant ces images là je les associe au texte que j'ai lu de ma mère, qui est son journal de terrain, dans lequel elle se questionne sur le regard qu'elle porte sur les Nigériens qu'elle filme, sur les lieux ou les rituels qu'elle filme, et où elle va jusqu'à se remettre en question la façon de filmer qu'elle a, enfin le regard qu'elle pose sur les gens, et parce que elle a conscience que son regard a été fabriqué, enfin conditionné, enfin par tout ce qu'elle a reçu, enfin de son éducation, de la société de laquelle elle vient, et que donc elle va à un moment donné elle a honte presque de la façon dont elle regarde les femmes, où elle se dit mais je les regarde comme des hommes et des hommes occidentaux et donc je suis et elle questionne ça, elle analyse ça, elle se demande comment se détacher de ce regard-là en fait et réussir à accéder à autre chose autrement. Et dans les images en fait que moi j'ai découvertes, j'ai l'impression de percevoir le cheminement en fait de son regard à la façon dont elle filme et aussi au travers des regards qu'on lui porte à elle, enfin qu'on porte à l'objectif, à la caméra. Et en fait, après 79, elle fait presque plus aucune photo, par exemple. Et elle ne filme plus, alors qu'elle a fait des centaines de photos avant. Et après, il y a ça rencontre aussi des questions que moi je me pose et aussi depuis longtemps. Enfin, finalement, si je filme en Super 8, il y a plein de raisons, mais le fait d'avoir peu de pellicules, j'ai jamais filmé beaucoup et j'ai jamais voulu filmer beaucoup. Donc il y a un truc d'économie de d'image, mais en filmant en vidéo, je ne filme toujours pas beaucoup alors que je pourrais filmer plus et qu'à chaque fois, quand je regarde en fait. Les rushs, je me dis mais pourquoi est-ce que j'ai arrêté là, enfin j'ai très très peu filmé mais parce que je sais quoi filmer, comment filmer, pourquoi le filmer et ensuite comment le restituer et quoi en faire et donc quand je rentre dans cette matière là de pellicule et que je travaille, enfin que là je suis au photogramme par photogramme, j'ai pas l'impression en fait de plus rien montrer. Enfin, j'ai l'impression qu'en travaillant ça, en réussissant à recomposer, enfin redonner une autre durée et avec le son et tout ça, que ça va, que je peux raconter autant de choses en fait. Mais sauf que, il y a un truc.
Mais j'ai l'impression, moi, ce que ça me raconte, c'est aussi toute la complexité, mais que ton histoire aussi avec le cinéma raconte, et puis je pense qu'il parle à chacun et chacune, c'est comment réussir à s'autoriser, ou est-ce que c'est ça, s'autoriser, je sais pas, mais cette question entre le travail d'une matière et de ce qu'elle peut raconter de façon un peu poétique ou abstraite, et puis aussi la question de l'histoire ou de la réalité de l'histoire de cette matière, quoi. Et donc la question du sens et du sensible et à quel endroit on s'autorise quelque chose à cet endroit-là. Et c'est un peu la question entre l'ethnologie ou le cinéma. Mm-hmm. Tu vois, l'ethnologie qui va chercher à comprendre, à expliquer de façon rationnelle. Et puis le cinéma qui va essayer de se mettre à un autre endroit qui est plus poétique ou plus abstrait. Et j'ai l'impression que ce que tu es en train de vivre là, dans cette histoire-là, c'est à cet endroit-là que ça se... Mmh. Parce que quand tu me parles, par exemple, cette façon de revoir ces images avec cette façon au photomaton, et puis que d'un autre endroit, tu parles de cette histoire... Cette histoire avec un grand H des Nigériens de maintenant, tu vois, et j'essaie de faire la connexion de ces deux choses. J'ai l'impression que c'est comme si c'était presque deux films différents ou deux histoires différentes. Et il doit y avoir peut-être un enjeu, mais d'une grande complexité à les faire se croiser, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire,
oui.
Ou comment je m'interroge, quoi.
Oui. Bah oui, deux films différents, j'aimerais réussir à ce que ça n'en soit qu'un en fait, et à mêler en fait ce travail-là en fait sur la forme et induire un autre rapport en fait à l'image et au temps et au regard et quand même malgré tout avoir un ancrage dans le présent et dans ce monde des Nigériens que je vais filmer avec une caméra vidéo et donc ça sera forcément quelque enfin une rupture très très brutale dans le film, si j'associe ces deux matières complètement différentes. Mais pour l'instant, j'essaye de me dire que je vais les travailler ensemble et que j'arriverai à construire du sens dans ce rapprochement. Ouais. Et à chaque fois que je me dis que ça va, que je vais plonger complètement dans quelque chose d'expérimental et que je me détache de ce rapport au présent-là et au Niger et à la vidéo, ça me manque. Et quand je suis avec les Nigériens, avec eux et dans leur récit et dans leur regard, parce que l'idée c'est quand même de leur proposer cette matière-là brute, enfin, et d'avoir leur retour à eux sur la matière, donc sur ce que ma mère a pu faire et sur ce que moi je suis en train de faire avec eux, et donc forcément ça doit aller ensemble. Et après je me mets c'est aussi un risque, enfin, parce que c'est... Oui, mais c'est... Ouais.
Oui, c'est sacré challenge.
Oui, j'ai l'impression que tu t'en fous pas mal de challenge quand même. Enfin, tu t'en mets pas mal. Parce que moi, il me semble que la première fois que je t'ai croisé ici, j'étais avec David et Jérémy. Je t'ai vu là sur la table, on s'est dit bonjour. Devant toi, t'étais de dos. Devant toi, il y avait l'image d'une femme enceinte. En 16, en super 8, en 16
En
16, oui. Un peu bousculé. On a parlé ensuite, les fantômes, tout ça, convoquer les fantômes. Le cinéma, c'est ça aussi. Se réapproprier les choses, les faire circuler, les libérer aussi. Et je pensais à une phrase que tu m'as... c'est-à-dire, tu m'as dit... En fait, ce que je vois là, c'est que là, tu parles avec... Enfin, il y a quelque chose qui a l'air d'être libéré. Quand tu parles de cette manivelle, que tu tournes, que tu prends le temps de tourner, comme si tu t'appropriais toute cette matière qui est en fait extrêmement riche et variée, parce qu'il y a des lettres de correspondance entre ta mère et les personnes qui l'a guidée là-bas au Niger il y a plus de 30 ans, 40 ans.
Bah, 50 ans. Ouais.
Voilà, enfin voilà. Il y a ces Nigériens à Bruxelles que tu as rencontrés. Il y a le journal de ta mère, les rushs que tu trouves dans le grenier, CNRS, enfin bon, là t'es quand même acculée, hein, un peu croulante sous la matière, et j'ai l'impression que ça y est, là il y a la main mise, enfin tu vois, cette manivelle que tu tournes, toi, avec ta temporalité à toi, que tu veux, ce que tu veux voir toi là-dedans aussi, parce que quand même il y a énormément de choses qui dans cette aventure te dépassent et peuvent être encombrantes, comme là on en parlait tout à l'heure, mais ne serait-ce que ces dossiers à répétition qui te sont demandés parce qu'il faut bien trouver un peu d'argent quand même, et en fait toi t'es dans l'exploration de la matière et là il y a quelque chose, là t'es en train de tirer un fil. Et je pense juste à... Voilà, il me semble qu'il y a un mois, quand je t'ai croisée ici, c'était assez bouleversant, en fait, tout ça.
Ouais. 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 Ben, je les découvrais. Enfin, c'était vraiment... Je venais d'arriver et j'avais pas vu du tout toutes ces images depuis... Enfin, je les avais jamais vues. Ça faisait 4 ans qu'elles étaient dans mon... Enfin, arrivées chez moi. Mais j'avais pas... Oui, il y avait déjà Mélia, j'avais pas le temps, mais je pense qu'il fallait aussi ce temps-là pour que je cherche une table de montage 16 mm à laquelle m'atteler pour les remettre en état. Et donc oui, c'est vrai que j'ai découvert... oui, ça m'a pris en plein... Parce que ma mère filme à l'épaule aussi, et avec une caméra légère, et que donc on la sent, elle est toujours au cœur des rituels et de choses, donc on la sent physiquement, enfin je sais ce que c'est de filmer, et donc ouais, il y a un truc très physique, et dans les sons aussi, oui, tout ça brasse vraiment beaucoup de choses, ouais. Là,
parce que ta mère, elle est morte il y a combien de temps?
En 94, donc ouais, il y a longtemps. Plus de 20 ans, et ouais, j'étais pas si grande, Ce projet-là, je l'ai écrit, j'avais déjà écrit des choses il y a 20 ans, que j'ai ressorti il n'y a pas très longtemps et que j'avais complètement oublié que j'avais déjà en germe un projet à partir de ça. C'est très très étonnant en fait, la mémoire enfouit quand même pas mal de choses. Et parfois, et donc là, c'est un concours de... Ouais, c'est le moment, quoi. C'est le moment. Et là, j'arrive à... Peut-être une façon de prendre ma place, de rentrer dans cette matière-là. Mais aussi, en allant, en fait, à la rencontre de Nigériens aujourd'hui, de ramener ce film-là au présent, et à moi, et à mon histoire aussi. Je sais pas, je m'appelle Aminatou, et c'est vrai que... C'est vrai que je suis pas noire, mais quand même ce rapport-là à la couleur, j'ai la conscience d'être blanche. Enfin, la conscience, on me le renvoie assez souvent en fait, que je suis blanche. Je peux pas ne pas penser. Enfin, je sais pas si quand, enfin, les autres blancs pensent qu'ils sont blancs. Je sais pas, mais enfin non, je sais pas cette perception-là. Enfin. Bah toi, oui, ouais. Peut-être autrement pour les films que tu as fait, mais sinon, donc là, ça aussi c'est fort et ça m'a marqué depuis que je suis petite, puisque Aminatou, on m'a toujours appelée Aminatou, donc on m'a toujours dit t'es blanche, t'es pas noire, et voilà.
C'est moi une blanche. Mais c'est un peu ça quand même. C'est vrai.
C'est
Ouais. Bon, on arrive à la fin. Hein? Tu veux... David veut un coup de manivelle.
J'allume la table.
Alors, on va se quitter. Ben, en tout cas, merci, ami Natou. Merci, David, et merci, Darge. Et puis, on va se quitter sur quelques tours de manivelle et les images. Donc, ça, c'est le.
Là, en fait, la mini-image n'est pas très abîmée. Attends, je vais aller à un endroit où c'est abîmé. Tu vois. Bon, là, le plan est à l'envers, mais... Ah, voilà, là. Là, par exemple, toute la colle. Et là, ça, c'est vraiment pictural, quoi. C'est comme un tableau, quoi. Et quand tu vas très, très, très lentement, ça change. Ça change. Enfin, tout change et rien ne change, en fait. Enfin...
C'est-à-dire que là, c'est le même photogramme.
C'est le même, enfin, c'est pas le même photogramme, mais c'est le même plan.
Ouais.
Et il y a très peu de mouvement, il bouge assez peu. Cet homme là qui est sur la droite, il y a deux fourneaux, au fourneau. Mais il y a tellement de, alors là l'image est toute nette. Il y a que quelques petites bulles là, de colle là au-dessus, mais il y a rien. Mais en fait, là ça va. Là. Attends, je passe. Ah voilà, par exemple, là, c'est un peu plus sombre. Mais. Я иду а бабы судят и считают мне года. Я не роза, не калина, не зав'яну ніколи. Дуже тяжка доля наших жінок за кордоном і в Україні наш кордон. Пам'ятаємо, хто ми є, пам'ятаємо, що ми українці. Співаємо дуже гарно, поїхали. Гармоністи, гармоніст. Кучерява голова. Як у шапку не одінеш, то велика, то мала. Шапки виробництва Хмельницької компанії «Лендетве» подав для сера і Богдана. Гармоніст, гармоніст, він цибулю гарно є.
Tchétchète.
Se voilà.